c'est voilà. C'est-à-dire que c'est la dernière grande ville, la dernière, pas grande, la dernière bourgade avant la haute altitude, les montagnes, où on trouve de tout, il y a des magasins de fringues, il y a même un pub irlandais, enfin voilà. On
d'accord, ça skie un peu, non?
Pardon, ah non, pas du tout, il n'y a aucune piste de ski, c'est juste, voilà. Et donc, si vous voulez, là, après une semaine, voilà, c'est tranquille, avec peu de monde. Donc, quand je suis arrivé à Namche-Bazar, j'ai eu, entre guillemets, un choc. C'est-à-dire qu'il y a eu 3-4 jours sans avion, et le jour où je suis arrivé, il y a eu apparemment un déversement de 750 trekkers. Vous imaginez ? Il y avait énormément de monde.
Uh-huh.
Et donc, à partir de là, j'ai commencé mon ascension sur les hauteurs. Donc, en plusieurs étapes, je suis monté à 4100, 4300. J'ai pris une journée de repos pour m'acclimater. Là, je suis monté à 4900. Ensuite, j'ai continué sur 4800, 5150. Donc, mon premier passage à plus de 5000. Le camp de base de l'Everest à 5364.
Oui.
Le lendemain matin, levé à 4h du matin, et là, je suis monté donc à ce fameux Kalapata. Et là, il s'est passé un truc, j'ai pas compris. C'est-à-dire que j'étais pas spécialement recouvert de fringues très très chaudes, mes chaussettes étaient assez fines, j'avais juste ma polaire, ma veste, une écharpe et tout, et je n'ai absolument pas du tout senti le froid, vous voyez. Je suis monté à peu près en 1h40, voilà, de 5180 à 5550. J'étais parmi les premiers, donc le lever de soleil est arrivé. Bon, ça vaut le coup quand même. L'Everest avait une petite teinte orangée, par contre toutes les autres montagnes ressortait, parce que là, devant vous, vous avez des dizaines de sommets de plus de 6000 jusqu'à plus de 8000. Vous imaginez le spectacle devant vous, là? Ah ouais, mais je vous mens pas. Je me demandais si je rêvais pas, quoi. Tellement c'est d'une beauté à couper le souffle et voilà. Et quand il y a eu trop de monde, je suis redescendu et tout d'un coup, j'entends des marcheurs qui disent « Oh là là, mais t'as vu comme ça caillait, je suis transi et tout. » Et l'autre qui lui répond « Bah ouais, tu m'étonnes, il faisait moins 12. Oh » Et par contre, je n'ai pas du tout senti ces moins 12.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que c'était lié, je sais pas, à l'adrénaline, au fait que je me disais « Bah écoute, oui, tu vas battre ton record qui était de 5416, là tu vas monter à 5550. » En tout cas, j'ai pas du tout senti le froid. Voilà, donc j'ai vécu J'ai vécu une montée sans souci, plus ce magnifique lever de soleil. Alors par contre, le souci avec cet endroit, c'est-à-dire que les deux dernières étapes où vous arrivez, entre 5180 et les derniers lots, c'est-à-dire que là, c'est un peu l'usine. Malheureusement, tout le monde a le droit de voir la montagne, je sais. Mais il y a énormément de monde. Les lodges ne sont pas spécialement... très excitant, il y a beaucoup de monde. J'ai pris une chambre qui n'était pas très propre, la bouffe c'était minime. Puis alors, surtout, c'est que les prix flambent, quoi. Et ce que vous payez, à peu près tout est multiplié par 6 comparé à Katmandou, vous voyez ?
Par 6 ?
Voilà.
Ah, d'accord, ok.
Ouais, à peu près. Par exemple, un Dalbat, c'est-à-dire le plat national du Népal qui consiste. C'est un plat avec du riz, des légumes, et on vous resserre si vous en voulez plus. À Katmandou, il va coûter 200 bahts, donc 1,40 €. Et là, sur ces dernières étapes, il est entre 1000 et 1200, donc multiplié par 6. Voilà. Alors, bien sûr, ça se comprend. On est à plus de 5000, il faut amener tout ça, il n'y a pas de route. C'est amené par des mules ou des yaks ou des chevaux également, mais bien sûr que ils en profitent également. Ça, on peut pas reprocher aux gens de vouloir faire du business sur une période qui dure moins de 3 mois, vous voyez.
C'est clair.
Voilà.
C'est clair, ouais.
Mais alors, donc quand j'ai fini cette partie-là, J'ai repris donc ce sentier principal, mais pareil, 95-99% des gens retournent à Nanfé-Bazar. Mais moi, en fin de compte, après un petit village qui s'appelait Lobouche, j'ai pris un autre itinéraire. Et là, ça s'appelle le circuit des cols. Voilà. En fin de compte, il y a trois cols. J'ai préféré en annuler un parce qu'apparemment, il était quand même dur physiquement.
Oui.
J'étais tout seul. On m'a dit qu'il y avait eu des chutes de pierre. Donc, j'ai pas voulu prendre de risque. Mais par contre, j'ai fait deux autres cols. C'est-à-dire un à 5420, un autre à 5360. Je suis arrivé à Gokyo, qui est au bord de lac, qui est magnifique. Je suis monté au Gokyo-ri, c'est-à-dire le sommet du Gokyo, de la montagne, 5347. Et ce qui fait que cinq jours d'affilée, j'ai évolué à plus de 5360 mètres. Alors, bon, c'est vrai que j'en ai éprouvé une certaine fierté, je ne vais pas dire le contraire. Je me suis dit, bon, quand même, à 62 ans, tu peux être fier de toi. Voilà.
Ah oui, 62 ans, c'est magnifique, ben, magnifique.
Ah oui, j'ai tutoyé la joie extrême, j'étais vraiment zen. Et d'ailleurs, justement, pendant 10 jours, j'ai coupé carrément avec Internet parce que je pouvais acheter un coupon, recharger mon téléphone, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti le besoin d'être vraiment en communion avec la montagne. Je ne voulais pas me polluer avec Internet. Je me suis dit, je vais raconter ça une fois que j'aurai fait mon voyage.
Ouais.
Le plus important, voilà, c'est de me sentir bien, moi, avec la montagne. Et d'ailleurs, un ami à moi s'est inquiété de ne plus avoir de nouvelles au bout de 10 jours, et j'avais oublié de le prévenir. Du coup, il a un peu paniqué, il a carrément appelé l'ambassade du Népal à Paris, en expliquant que mon ami Joachim Domitio ne donne plus de nouvelles, je suis un peu inquiet. Et quand je suis redescendu après les deux cols dans une vallée où je pouvais capter un peu, puisque j'avais une carte SIM népalaise, il y avait un message sur WhatsApp du consul de l'Inde à New Delhi. Je ne sais pas pourquoi c'est l'Inde qui s'est chargé, qui me disait, voilà, monsieur, vous avez un de vos amis qui s'inquiète énormément, veuillez nous donner des nouvelles le plus rapidement pour savoir si tout va bien. Voilà, c'est gentil de savoir qu'un ami s'est préoccupé de savoir si j'étais toujours en vie dans les montagnes. Et voilà, quoi. Mais j'ai appelé ce consul en lui disant que tout s'était bien passé, j'avais effectué mon voyage, mes 10 derniers jours, sans avoir le besoin d'avoir Internet. Voilà.
Bon, c'est génial. On sent que vous êtes rempli de plaisir, de joie, en ayant fait ce trek au Népal.
Tout à fait, mais j'ai quand même eu un petit souci, c'est-à-dire que j'ai chopé une crève carabinée.
Ah bon?
C'est-à-dire que la journée, vous pouvez marcher presque en t-shirt. Il va faire peut-être 12, 13 au soleil, voilà. Mais le soir, avec mon duvet moins 17, une couette par-dessus, et je dormais avec ma polaire, plus un caleçon long, j'ai chopé une bonne crève.
Ah ouais. Là-haut, ça craint d'avoir une crève, non?
Ben oui, voilà. Mais quand je suis redescendu à Nanfé-Bazar, justement, j'ai acheté des médicaments, ça s'est calmé plus ou moins, et comme le lendemain, j'avais 20 km à faire, je suis parti à 14h du matin, parce que je savais que ça allait être une journée vraiment galère, et les deux premières heures se sont bien passées, je suis redescendu vers 2800, je me suis arrêté à un lodge où j'avais dormi deux semaines auparavant. J'ai repris le petit déjeuner et puis tout d'un coup, j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre, quoi. Mmh. Tout tournait, ouais. Et à un moment donné, Je me suis arrêté à un café, il y avait plein de monde et tout. Et si vous voulez, je suis parti sans m'en rendre compte.
Vous êtes tombé dans les pommes.
Ouais, c'est ça, ouais. Je suis parti sans m'en rendre compte. Et tout d'un coup, je me réveille une heure et demie plus tard.
Ah ouais, carrément une heure et demie plus tard, carrément. Oula.
Ah ouais. Mais si tu veux, le soleil qui me cramait le visage, sur le coup, je ne savais même pas où c'était.
Mais personne ne s'est occupé de vous ? Personne ne s'est occupé.
Si, justement, il y a une dame, tout le monde était parti du café. Il y a une dame qui est venue, qui m'a dit ça va, vous allez bien et tout. Je lui ai dit non, j'ai une bonne crise de carabinée et tout. Et cette dame a été super gentille, elle m'a offert un thé au gingembre et au citron gratuitement, quoi. Mm-hmm. Vous voyez, c'est les Népalais.
Ouais, les Népalais.
Voilà. J'ai quand même réussi à continuer tant bien que mal. En faisant plusieurs pauses, je suis arrivé à 6h moins le quart, donc au bout de ces 20 km, je me suis carrément couché sans avoir eu la force de retirer mes fringues.
Ah ouais, mon pauvre.
Et heureusement, le lendemain matin, c'était ma dernière étape, il me restait juste 5 km pour aller à un petit village et reprendre une jeep pour aller dormir à un petit village qui s'appelait Saléry et reprendre une autre jeep pour rentrer à Katmandou. Bon, alors, heureusement que ça m'est arrivé sur la fin, hein, parce que, ouais, comme vous dites, se retrouver avec une bonne crève à plus de 5000 mètres d'altitude.
Ouais, ça ne doit pas être évident. D'ailleurs, je crois savoir que vous avez vu des hélicoptères évacuer des gens qui. Enfin, il y a eu quelques évacuations en hélicoptère.
Oui. Ah, mais c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Vous expliquiez ça à Florian. Ouais. Il y a beaucoup de gens, mais complètement inconscients.
Oui, c'est ça. Ouais.
Qui se font évacuer, justement, à cause de problèmes du MAM.
Ils n'ont pas anticipé l'aspect sportif que ça représente, hein, quand même, de monter comme ça. Mais,
oui, et puis surtout ne pas s'acclimater. C'est ça le truc. De toute façon. Moi, la deuxième partie, là, comme je vous ai dit, mais je ne l'ai pas trouvé du tout difficile, puisque, bon, si, il y avait l'altitude, mais en fin de compte, c'était des petites étapes, il y avait les cols à franchir, tout ça, mais comparé à ce que je m'étais tapé pendant une semaine, et en plus de ça, j'ai eu la pluie, j'ai eu la neige, j'ai passé un col à 3530 mètres tout seul dans la neige, il n'y avait plus de traces de l'autre côté, j'étais pas spécialement très rassuré, voilà. Donc, mais franchement, J'ai fait le meilleur choix qui puisse exister pour justement apprécier ce trek. Quand vous partez de 2800 à Loukla, voilà, en général, les gens s'acclimatent une journée à Namsé Bazar. Vous montez de 3400 à 3008-3009. Mais c'est pas assez. Surtout pour des gens qui ne connaissent pas la montagne, qui ont jamais. Et en effet, vous assistez à des évacuations en hélicoptère tous les jours. Ouais. Tous les jours, il y a des gens qui sont évacués. Ah ouais. Mm-hmm. Ben, bon. Heureusement que même moi, grâce à mon assurance, avec la carte Mastercard, je l'avais inclus, cette
option-là, ouais, cette possibilité-là.
Voilà.
Et Yvette au 739-21 vous demande, qu'est-ce que vous faites de vos déchets en montagne comme ça ?
Ah, mais je n'ai aucun déchet.
Il n'y a aucun déchet.
Non, je n'ai aucun déchet. D'accord. Et vous savez quoi ? Même, je me suis... Voilà, parce que j'ai l'habitude, j'ai connu ça dans les pays arabes, j'ai passé tout le trek sans me servir de papier toilette. Je me suis nettoyé à l'eau. Ben ouais. Parce que, justement, je refuse d'aller apporter ma pollution à des sommets, à des endroits à 4000 ou 5000 mètres d'altitude. Voilà. Bon, c'était froid. Hein.
Ouais, je me doute que c'était froid.
C'était un petit peu frisqué, mais bon, voilà. J'ai connu ça dans les pays arabes, j'ai beaucoup voyagé dans les pays arabes, et on n'est pas pareil. Les locaux ne connaissent pas le papier toilette. Et qu'est-ce qu'on vient Bon, je comprends, je ne vais pas critiquer, mais pourquoi venir les polluer par nos modes de vie occidentaux. Vous savez d'ailleurs qu'il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur sur le camp de base de l'Everest. Les gens des expéditions sont obligés maintenant de repartir avec leurs excréments.
Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais.
Oui, c'est une nouvelle loi. Bon, on n'en est pas arrivé à ce point-là au Trek. Vous voyez, par exemple, à Gorak-Chek, le dernier lodge, là. Mmh. Eh ben, je peux vous dire que l'hygiène, c'était vraiment pas très respecté parce qu'il y avait même pas d'eau courante. Les canalisations avaient cassé et il y avait même pas d'eau courante. Donc, vous imaginez, un peu le côté sanitaire, pas vraiment très réjouissant, quoi. Voilà.
D'accord.
Et, le camp de base, apparemment, tous les ans, des dizaines ou des centaines de tonnes de déchets sont récupérés tous les ans. Vous imaginez ? Les gens, ils arrivent là-bas au camp de base, ils laissent tout. Les bouteilles d'oxygène, les tentes, et vous avez des associations bénévoles qui s'occupent de ça, et je pense que le gouvernement népalais en a marre, quoi. Mm-hmm. C'est pas parce que vous payez 50 000 $ pour faire une expédition que vous avez tous les droits. Vous êtes d'accord ?
Ouais, complètement, ouais.
Ouais. Ben ouais. Malheureusement, voilà, j'ai essayé de faire ma petite action de mon côté, et puis on meurt pas de pas avoir de papier toilette. Hein.
Non, bien sûr. Bon, écoutez, voilà, super. Ouais. Eh ben écoutez, merci mille fois de nous avoir fait voyager avec vous pendant ces quelques minutes, mon cher Laurent. Et puis le prochain, c'est pour quand?
Je sais pas, j'aimerais peut-être y retourner. Alors, oui, est-ce que je peux passer un petit remerciement?
Bien sûr.
Voilà. Alors, j'ai un couple d'amis qui habitent dans les Corbières, un couple hollandais, Cornelis et Natalia, Kees et Natalia. Et je les remercie parce que quand je suis rentré, j'ai atterri à Barcelone. J'ai pris un bus jusqu'à Perpignan, mon ami est venu me chercher et ils m'ont bichonné, ils m'ont cuisiné un super repas, il y avait un plateau de fromage, il y avait du bon pinard.
Ah super.
Malheureusement, c'est pas trop bien passé, je me suis retrouvé avec un mot de crâne, mais quand même, après avoir passé un mois sans boire une goutte d'alcool, pas manger de fruits ni de fromage, je peux vous assurer que ça faisait du bien de retrouver tous ces bons produits.
Je veux bien vous croire.
Voilà. Alors, bon, je leur dis bedank.
Bedank.
Merci. Okay. Ça veut dire bedank, merci en hollandais, parce que ce sont vraiment de très bons amis et ils se sont vraiment très bien occupés de moi et ça m'a fait chaud au cœur.
Bon, super.
Voilà.
On vous embrasse bien fort, mon cher Joël.
Merci. Et puis si je repars dans une autre destination pour encore arpenter les montagnes, je me ferai un plaisir de vous raconter tout ça.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Portez-vous bien.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir.
À tout le monde.
Au revoir.
Merci bien, au revoir.
Sur Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir Olivier.
D'où nous appelez-vous Daniel et quel âge avez-vous ?
Je réside en région parisienne et là je vous appelle de la Bretagne. J'ai 66 ans et je suis en route pour le Grand Large.
Comment ça vous êtes en route pour le Grand Large ? Expliquez-moi ça.
J'ai fait un arrêt à Brest. Je salue l'auditeur de, je crois que c'était jeudi soir, Alain, le Brestois, qui nous avait fait un superbe témoignage sur sa vie.
Oui, sur la résilience d'Alain, quelqu'un...
Oh là là.
Oui.
C'était merveilleux.
Il est formidable. C'était formidable.
Formidable. Hasard du calendrier, ça fait quand même un mois que j'ai prévu d'aller au large de Brest, dans une île que vous voyez. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça aurait été bien de le rencontrer, mais bon.
On pourra vous mettre en rapport avec lui, si vous le désirez. Si vous êtes
éventuellement, vous pourrez lui laisser mon téléphone, parce que je vais partir et je vais revenir en fin de semaine à Brest. Demain matin, je prends le bateau pour une superbe île.
Mais alors, donnez-nous le nom de cette superbe île, Daniel. Vous êtes,
je pars à Ouessant.
À Ouessant, d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ?
Et alors, Olivier, je vous remercie parce que vos témoignages sont bouleversants, intéressants, et vous avez beaucoup de chance. Parce que franchement, Olivier, je veux pas, comme on dit crûment, vous passer de la brosse à reluire, mais vous avez tout. Vous avez un look, je vais vous le dire. vous avez une voix, ça c'est important, hein, parce que personne, pour faire votre émission, il faut avoir une voix. Êtes vraiment la bienveillance même, et aujourd'hui, on en a grandement besoin, Olivier.
Plus que jamais, mon cher, plus que jamais, vous avez raison.
Et ce soir encore, Simone, handballeuse à Massy, et alors le hasard du calendrier, j'ai travaillé très longtemps à Massy.
Oui.
Et j'ai moi-même pratiqué le handball, mais pas à son niveau. Donc vraiment, ça m'a... Est-ce qu'elle vous a dit, je connais par cœur ce problème des anciens sportifs, parce que j'ai plein d'amis à moi qui ont été professionnels, et vraiment, c'est important. Moi, je voulais vous parler de la vie, pas de moi. Moi, Daniel, c'est pas important. Je voulais vous parler de la vie. Je vais faire assez court.
Prenez votre temps, on a du temps.
Des chocs que l'on traverse au cours de son existence, de sa vie.
Oui.
Et j'espère que vous allez pouvoir m'aider, j'en suis sûr.
Je vous écoute, hein, Daniel. Alors, vous me parlez de quel type de choc, en fait ?
Je pense que tout le monde, vous voyez, Simone, Alain, tous nos auditeurs ont eu un choc, des chocs, je ne dis pas des échecs, je dis des chocs dans la vie.
Des épreuves.
Moi, j'en ai eu des tas, mais pas moi. Et je pourrais vous parler de quand j'étais enfant, quand mes parents se disputaient, quand ils m'ont envoyé en pension, quand ils ont divorcé, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
J'arrête. Ça, c'est des chocs.
Mmh.
On les vit. Mais je vais vous parler de trois chocs. Je pense qu'on en a tous une dizaine dans la vie, des gros chocs. Hein.
Pourquoi une dizaine ?
Parce qu'on les perçoit pas, mais on en a à peu près un tous les 10 ans.
D'accord.
J'ai gardé à peu près, j'ai regardé beaucoup de gens. C'est un peu comme, si vous me le permettez, les tremblements de terre, il y a un gros choc sur l'échelle de Richter, pour ne pas la nommer. Et puis après, vous avez des secousses qui sont de plus en plus faibles. Une secousse de 6, quand il y a un grand... Vous savez que, par exemple, le plus grand tremblement de terre, je crois que ça a été à Haïti où il y a eu 300 000 morts.
Mmh.
Après, il y a eu une dizaine de secousses, des répliques, comme on dit, de plus en plus faibles. Et qui font peur quand on les a, parce qu'on se dit, oulala. Et ben dans la vie, c'est l'inverse. La première secousse, elle est petite. La deuxième, elle est un peu plus grosse.
Oui.
La troisième, elle est encore plus grosse. Et la dixième, elle est alors énorme.
Ah bon ?
Et vous savez, quand j'ai eu ma dixième, Olivier ?
Oui.
Mais vraiment, le choc, le bing-bang, Olivier. Je l'ai eu le 15 avril 2019.
D'accord, le 15 avril 2019, le jour où Notre-Dame a brûlé.
Exactement.
Mais...
Tout le monde en parle aujourd'hui.
Oui.
Ce jour-là, je ne vais pas vous lire mon compte-rendu opératoire, il fait 2 pages.
Mm-hmm.
J'étais dans un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris,
oui.
Pour ne pas les nommer, ils ont 26 hôpitaux, vous les connaissez. Et je salue, je remercie, j'embrasse tout le personnel des hôpitaux qui m'ont sauvé la vie. Parce que le 15 avril 2019, moi aussi j'ai failli, trépasser.
Que vous est-il arrivé ?
Eh bien, le 15 avril 2019, j'ai eu ma troisième opération ce jour-là.
Oui.
Une grosse opération. Une hémorragie digestive,
voilà.
Que je souhaite à personne.
Mais c'était comme ça
C'était la troisième, parce que la première, faite par un grand professeur que je n'aimerais pas, mondialement connu, je suis reparti au bout des 6 jours.
Oui.
Et puis après, je suis revenu par les urgences. Et là, il a dit, voilà, qu'est-ce qui lui arrive à Daniel ? Je vais m'occuper de lui. Il m'a retourné pour la deuxième fois. Et là, ils m'ont gardé 3 mois. Et j'ai eu 8 opérations, Olivier, en 2 mois.
D'accord. C'était dû à une fragilité de quoi ? Du tube digestif de...
Bah, c'est des... Vous savez, dans la médecine, vous le savez, je ne suis pas le seul. Hein. Moi, c'était sur l'appareil digestif, vous savez qu'on dit que c'est le deuxième cerveau humain. On veut dire que ça commence à l'œsophage et ça finit, je crois que c'est au rectum. Hein. Bon, moi, c'était quelque chose entre tout ça.
D'accord.
Et puis voilà, bah, donc ça a été le choc terrible. Et alors, à partir de là, non pas c'est cool, parce que mon appel, c'est pour nos auditeurs libres, les gens, ils le savent, on s'en remet toujours, même si on s'en remet lentement.
Mmh. Mais vous vous en êtes remis, vous, Daniel ?
Je sais pas.
Comment ça, vous ne savez pas ?
On ne sait pas parce que il y a plein de conséquences. Quand vous êtes opéré lourdement, il y a des effets, on va dire comment, collatéraux, secondaires, je ne sais pas comment on dit. Parce que ça remonte après, hein. Ça peut remonter jusqu'au cerveau. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que ça vous choque.
Oui.
Un peu comme un sportif, hein, Simone avant, ses blessures, elle les porte. Hein.
Bien sûr, mais là, si vous voulez, dans votre cas, vous dites que vous avez été comme abandonné au bord de la route, comme c'est souvent le cas quand on est malade. Est-ce à dire que quand on vous annonce que vous allez être opéré à nouveau, on se sent très seul, là, on est face à... On est face à la mort,
oui,
en gros.
Oui, mais si vous voulez, ça, c'est le jeu, si je puis dire, c'est... On le comprend, et les soignants font un énorme travail, et je les remercie encore jamais, mais je les remercierai jamais assez. Mais si vous voulez, c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous sortez de l'hôpital, là, vous êtes tout seul. Hein.
Oui.
Et quand vous êtes à l'hôpital, c'est bien. Et quand vous sortez, parce que vous savez que vous allez revenir. Hein. Parce qu'après, vous êtes suivi, vous avez des contrôles, 6 mois, 1 an après, voilà. Mais enfin... Voilà, je vous ai parlé de ce choc qui est énorme. C'est le Big Bang. Échelle de Richter, c'est le 8 de magnitude. Celui-là, il fait très mal.
Oui, d'accord.
Il y a plein d'autres, on sait. Mais des tas de gens l'ont. Donc, je ne suis pas le seul. On est des millions en France, sur le monde, sur la planète, à être opérés. Et on sait qu'un jour ou l'autre, il faudra y retourner. Donc, il faut. On a deux solutions. La bonne ou la bonne ?
La bonne ou la bonne, ça veut dire quoi ? Dites-nous.
Eh bien, il faut prendre la bonne solution ou la mauvaise.
Mais on n'a pas vraiment le choix, c'est ça que vous voulez
Exactement.
Dire ?
Exactement. Mmh. Exactement. On n'est pas vraiment maître de son destin.
Vous avez été opéré 8 fois en 1 an.
J'ai été opéré 7 fois. En 2 mois.
Oui.
Et après, quand vous êtes opéré comme ça, on a, excusez-moi l'expression, tous les soignants, s'il y en a qui écoutent, et des sommités qui écoutent, on remet le circuit après. Mais le circuit, on le remet au bout d'un certain temps. Alors en général, le circuit, on le remet entre 3 et 6 mois. Moi, j'ai eu de la chance qu'on me l'a remis au bout de 13 mois. Donc, vous voyez ce que je veux dire.
Mmh.
Parce que moi, j'avais des complications. Donc, le circuit, ça a été plus long. Donc les conséquences, les chocs, les petits chocs, les parachocs, les aftershocks sont plus longs.
D'accord. Et
donc en fin de compte, c'est aussi dur. Mais bon, mais on en a d'autres dans la vie. Mais par contre, il faut se rappeler dans ces moments-là quels ont été les bons moments.
Mmh. Mais vous m'avez dit avoir 66 ans.
66, oui.
Oui, tout cela vous arrive en 2019, le gros hein, des opérations.
Oui.
Avant ça, vous n'aviez jamais eu de problème de santé ? Vous étiez plutôt en forme ?
J'ai eu des petits pépins en 2010. Je fais le marathon de New York.
Oui, vous êtes sportif en plus et tout, quoi. Incroyable.
Au départ, je rencontre, enfin, je peux le citer, un ancien joueur de tennis, le salut. Français, un très connu. Moi, j'étais j'étais dans le 10%. Hein. Oui. Quand il y en a 100, j'étais 10e. Quand il y en a 10, quand il y en a 1000, j'étais 100e, j'étais dans le 10%. Et à la sortie du marathon de New York, que j'ai fini bien, mais péniblement, 2 mois après, j'ai eu une grosse opération, mais pas celle que j'ai eue en 2019, mais pas rigolote non plus. Et en 2010, là, je vais voir un médecin, il me dit, mais vous avez ça depuis quand? Ben, je lui dis, depuis quelques temps. Il me dit, vous allez aller tout de suite. Et là, je suis allé, pareil, à PHP, dans un grand hôpital, c'était pas le même, c'était pas bébé. Le nom des hôpitaux, hein, je les appelle bébé.
Pourquoi là, vous les appelez bébé? Je comprends pas.
Parce que, si vous voulez, c'est... Les deux hôpitaux commencent par B et par B.
Ah, d'accord.
Donc, okay. Si vous voulez, pour ne pas les nommer, quoi.
D'accord. Mais vous pouvez et les nommer, moi, quand même. Hein. Vous pouvez les nommer.
Pardon ?
Vous pouvez les nommer, ça ne pose aucun problème.
Ah oui, oui, non, mais c'est des très bons hôpitaux, mais je veux dire, bon, c'est Beaujon pour ne pas le nommer, quoi.
D'accord. Mais vous êtes resté longtemps ensuite à l'hôpital ?
Ah ben, je suis resté... 2 mois, et puis après, un an après, je suis resté encore presque 1 mois, et puis j'ai des visites de contrôle encore de temps en temps, quoi.
D'accord.
Mais si vous voulez, Olivier, il faut revenir à tout ce qu'on a vu précédemment et toutes les rencontres qu'on a pu faire. Et là, je me suis dit peut-être que je pourrais vous parler de ça. En 79, c'est encore un 9, là je suis jeune et moulu, je travaille dans une grande entreprise, et là, ce jour-là, je vois débarquer un gars qui est très connu, qui est de passage à Paris, qui descend au Georges V, pas au Georges V comme sa bande, mais qui sort au Ritz.
Oui.
Et puis, je l'ai rencontré quelque temps. Et vraiment, c'est des moments auxquels je pense tout le temps aujourd'hui. Vous savez, quand on a des périodes difficiles, on revient sur le passé et on se remémore les moments flash qu'on a eus à rencontrer des gens... On a rencontré, qu'ils soient célèbres ou pas, hein, mais ça a été des moments de lumière.
Et qui est cette personne alors?
C'est Keith Richards.
Keith Richards? Ah oui, vous l'avez rencontré, dites donc, incroyable.
Incroyable.
Et vous l'avez...
En 79, ils sont en pleine gloire. Ils sont interdits de séjour en France.
Oui.
Et ils ont guidé toute ma vie, je ne suis pas musicien, mais j'adore la musique comme vous.
Mmh.
Mais moi, je ne suis pas comme vous, musicien, je n'ai pas ce don que vous avez de la musique, mais j'aime la musique. Et ça a été l'une des premières grandes rencontres de ma vie. Je l'ai vu 2 heures, mais vraiment, je m'en rappelle
tout. Et où, à l'hôtel, vous l'avez vu ou vous l'avez vu?
Non. Alors, ce jour-là... il est de passage à Paris à l'hôtel Ritz parce que je crois qu'il fait un disque en solo déjà.
Oui.
Et en fin de compte, il a un compte dans une agence d'une grande banque que je nommerai pas sur la Côte d'Azur. Et il fait un retrait déplacé. Ça s'appelait à l'époque où vous mettez à votre disposition de l'argent dans une autre agence. En cash, en francs, il fallait l'accord de la banque. Et vous veniez à la banque pour prendre de l'argent.
D'accord.
Ça s'appelle un retrait cash déplacé. Tous les anciens de la banque se rappelleront. Et moi, j'étais sous-directeur de cette banque. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait des fax. Il y avait le téléphone, il n'y avait pas de portable. Et je reçois un fax, monsieur Keith Richards va passer à votre agence, retirer un peu d'argent.
Incroyable.
Daniel, il y a ton pote qui passe à l'agence. Tu veux le voir? Parce qu'à l'époque, les Rolling Stones, ils faisaient un peu peur. C'était la grande joie, mais je veux dire, rappelez-vous, vous qui connaissez mieux que quiconque la musique, il y avait les Rolling Stones et les Beatles. Hein. Donc, il y avait les gentils et puis les rockers, quoi. Donc, à l'époque, j'ai eu la chance de le rencontrer.
D'accord.
Et vraiment, j'ai trouvé que c'était bien.
Bon, et revenons-en à aujourd'hui. Alors, vous allez faire quoi, là, à Ouessant ?
Eh bien, je vais respirer, je vais regarder au large, je vais passer quelques jours pour profiter de la vie, pour vous écouter, pour faire du vélo et pour rencontrer des gens.
D'accord. Et vous c'est la première fois que vous y allez à Ouessant ?
Alors, à Ouessant, c'est la première fois que je connais pas mal la Bretagne, parce que quand j'étais jeune, j'allais sillonner, quand je faisais des colonies et des camps d'ado, je sillonnais la Bretagne. Tous les ans, je vais en Bretagne, depuis longtemps. Et là, je vais à Ouessant, où je suis jamais allé. Je suis allé à l'île de Sein, mais jamais à Ouessant.
D'accord. Bon, bah super. Donc vous allez respirer, faire du vélo et rencontrer des gens. Ça, c'est un beau programme. Parfait.
C'est un programme intéressant.
La santé va bien aujourd'hui ?
Écoutez, la santé, ma réponse, quand on me demande toujours, je dis ça suit son cours.
Mais ça suit son cours, c'est-à-dire alors ?
C'est comme le fleuve, il continue son cours.
Donc vous êtes plutôt en forme quand même ? Vous avez récupéré...
Je suis plutôt en forme moralement, je suis en forme, mais bon... C'est comme Simone avant, c'est comme tous les gens qui ont eu...
Des chocs, comme vous disiez.
Des chocs.
Oui.
Eh bien, c'est... Il y a toujours quelque chose, tous les jours. Hein.
Mm-hmm. Comment on aborde, justement, la vie ? Comment on la regarde, la vie, quand on a subi des chocs comme vous, des opérations multiples comme vous, quand on a frôlé la mort, hein, clairement.
Ouais. On l'a dit clairement parce qu'on est venu... vous savez, Olivier, en 2019, après ces opérations-là, bon, tous les soirs, les gens qui connaissent les hôpitaux le savent, vous avez le professeur avec toute son équipe qui vient vous voir tous les soirs. Hein. C'est pas tous les deux, c'est tous les soirs. Ils font un petit rapport, alors ça va, etc. Et puis, on discute, on échange, hein, dans la mesure du possible. Et puis, le lendemain matin, en général... Le professeur, avant d'aller au bloc, il passe une tête, il échange avec vous, il parle, il essaye de savoir si vous allez bien et tout. Et ça, toujours, on y pense, quoi.
Oui. Tous les jours, vous y pensez ?
Tous les jours, c'est... Alors, le dimanche, on y pense parce que le dimanche, c'est, si vous voulez, quand, le dimanche matin, quand je prends mon café, je demande à ma femme qu'elle m'achète un croissant, parce que dans les hôpitaux, le dimanche matin, vous avez le droit au croissant.
D'accord.
Et vous ne savez pas à quel point ça nous fait du bien. À quel point ces gens sont humains, les soignants, les aides-soignants, et le personnel hospitalier.
Oui.
Parce que vous apportez un croissant le dimanche matin avec un jus d'orange et un café, et que vous regardez le ciel quand vous arrivez à le voir et qu'il fait beau, c'est bien.
Je veux bien vous croire. Mais donc aujourd'hui, vous regardez la vie chaque jour, en fait, c'est comme un nouveau cadeau, si je comprends bien.
C'est un nouveau cadeau, c'est vrai. Et c'est pour ça que il faut avancer, il faut avoir des objectifs. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, quand j'ai eu ce choc, ça a été un choc physique. Une opération, c'est physique, c'est clair, c'est mental. Mais ça a été après que j'avais réussi mon rêve. Parce que quand j'ai fini de travailler, j'avais un rêve, c'est de reprendre mes études. C'est un peu fou, hein. Je ne suis pas le seul, je sais, mais c'est rare.
Oui, c'est rare, mais bon, C'est un beau projet.
Voilà. Alors, j'avais repris mes études dans une université. Je voulais pas reprendre parce que je travaillais sur un sujet un peu ardu économique. Donc, j'ai fait un doctorat.
Vous étiez dans la banque, hein, vous, Daniel.
Ouais, moi, j'étais dans une grande banque. Mais le sujet n'avait rien à voir avec la banque. C'était un sujet économique, si vous voulez.
D'accord.
C'était un sujet sur la... Excusez-moi, je vous le dis, mais bon, c'est pas très intéressant, mais c'était sur la politique monétaire aux États-Unis.
D'accord.
Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc, j'aime bien l'aspect monétaire. Et c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'aspect
monétaire. Comment ça marche ?
Monétaire.
Oui.
Comment ça marche ? Et quels sont les... Parce que là aussi, on parle de choc économique. Et comment ça fonctionne ? Donc... Mm-hmm. Depuis 40 ans, j'ai étudié ça. Et quand, vous savez, quand on travaille, on est pris par le travail.
Oui, et on n'a pas le temps trop d'apprendre les choses.
Et on n'a pas le temps.
Non.
Alors, je m'étais dit, je trouverai le temps.
Bon, très bien. Très bien.
Voilà
un bon programme, en tout cas, pour les jours à venir. Mon cher Daniel, merci de nous avoir appelé ici sur l'antenne d'Europe 1 et de nous avoir fait signe. Et puis, portez-vous bien. Bon Wesson. Bon Wesson,
oui.
Daniel.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Je vous écoute encore plus que jamais.
Merci beaucoup. Au revoir, Daniel.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonsoir, Alexis.
Bonsoir, Olivier.
D'où nous appelez-vous, Alexis ?
Orléans.
Vous avez quel âge ?
27 ans.
De quoi vous voulez me parler, Alexis ?
Bah voilà, je vous ai appelé au mois de mars, vous savez, concernant mes deux filles qui ont été placées.
Oui.
Et du coup, là, il y a eu des suites, là, et là, en ce moment, là, ces derniers temps, j'ai eu une mauvaise nouvelle concernant ma première fille. Elle est tombée malade, elle avait plein de boutons, la diarrhée. Moi, ça m'inquiète parce que je me dis, ils disent que la gamine a été soi-disant maltraitée chez nous. Vous savez, je vous avais raconté un peu.
Alors, réexpliquez-moi un peu, parce que vous savez, on s'est parlé il y a quelques mois. Donc, vos filles avaient été placées dans quelles circonstances ?
Au fait, je vous avais raconté, c'était la famille de madame qui avait fait des signalements à la base.
Oui.
Donc ça a donné lieu à une enquête, où on a été convoqué que dans les locaux, ils sont jamais venus chez nous pour savoir où ça en était.
Donc vous êtes allé dans les locaux les rencontrer et ils ne sont pas venus chez vous du tout ?
Non, il y avait à cette époque-là, au début, il y avait que la puéricultrice qui venait chez nous parce qu'on avait demandé parce que la maternité, quand on a eu notre première fille, ils nous ont proposé de rencontrer la puéricultrice, donc on avait accepté dans le cadre pour nous aider à s'occuper de Jeanne, tout ça. Et du coup, ça a donné lieu à une enquête. Je vous avais raconté, ça avait été au tribunal, on est passé devant la juge des enfants qui a décidé d'un placement à domicile.
Oui.
Et du coup, je vous avais raconté, depuis qu'il y a eu l'histoire avec l'éducatrice, vous vous rappelez, je vous avais dit par rapport à la sieste, tout ça, à partir de ce moment-là, c'est parti un peu en cacahuète, quoi.
Parce qu'elle voulait que vous fassiez la sieste avec votre fille et pas la mère. C'est ça ?
Voilà, c'est ça, oui.
Oui, ce qui était une décision très curieuse.
Oui, parce qu'elle disait juste sur le comme prétexte, parce que madame était trop fusionnelle avec la petite.
Oui, ça c'est souvent un argument qui me semble assez exceptionnel, mais une maman trop fusionnelle avec son enfant, c'est presque un contresens, mais bon. En quoi elle était trop fusionnelle dans la tête de cette éducatrice ?
Parce que la petite était toujours dans les bras de sa maman, elle était très proche de sa maman, et voilà. Et à ce moment-là, elle était un peu moins proche avec moi, mais après, ça allait mieux, après, elle venait plus vers moi et tout.
D'accord.
Et voilà, quoi. Et du coup, ça a donné lieu, après, du coup, au placement de Jeanne, pendant un an. Provisoire au début. Et là, on est passé le 21 février dernier, que la juge a décidé de placer la fille pendant un an. Et après, je vous avais expliqué que le 6 mars dernier, notre deuxième fille, elle est venue au monde. Et puis, du coup, le 15 mars, 9 jours après, bah, ils sont venus la chercher, sous prétexte que madame mettait en danger la petite, faisait pas de peau à peau, vous savez, tout ça.
Et les deux petites, en fait, ont quel âge ?
Là, Jeanne, elle va avoir 18 mois le 25 avril prochain, et la petite Rose, elle a un mois.
Et donc, la petite Rose a été placée ensuite ?
Oui, voilà, c'est ça, à l'âge de 9 jours.
Et dans quelles circonstances elle a été placée, la petite, dans un mois ?
Comme je vous ai expliqué, parce que madame a été à la maternité encore, avec la petite.
Oui.
Et puis, madame restait à l'hôpital, et puis elle a trouvé ça bizarre, parce que... Elle trouvait ça bizarre que la maternité ne la laisse pas sortir, tout ça, avec sa petite. Et puis un beau jour, ils sont venus la voir, ils ont dit, bon, vous allez rencontrer...
Parlez bien dans le téléphone, parlez bien dans votre téléphone.
Ah oui. Du coup, elle disait, vous allez rencontrer deux personnes du CEDAS, là, qui vont venir vous voir. Alors du coup, ils ont été dans une petite pièce à l'hôpital pour discuter, et puis ils ont annoncé qu'ils...
Placer votre fille.
Ouais, voilà. Ils ont eu la décision de la juge et...
Bon, voilà, quoi. D'accord. Donc ça fait maintenant combien de temps ? Ça fait un an que Jeanne est placée ?
Jeanne, elle est placée depuis le mois de décembre
dernier. Depuis le mois de décembre, d'accord. Et la petite a été placée donc ?
Le 15 mars dernier.
Le 15 mars. Et c'est une décision de justice tout ça, en fait ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est la juge qui a décidé de...
D'accord.
Oui, parce que de toute façon, ça marche comme ça. Hein. Quand ils veulent placer un enfant, je pense qu'ils demandent directement au juge. Hein. Je pense pas qu'ils font ça comme ça.
Non, bien sûr. Donc là, en fait, comment est-ce que vous avez appris que votre enfant était malade ?
Bah, en fait, parce que ma maman est en contact avec mon ex-compagne, vous savez, parce que vu que c'est la grand-mère, pour avoir des nouvelles des petites.
Oui.
Du coup, madame, elle a su ça par les yeux, parce qu'au fait, ils avaient annulé une visite pour ça, parce que madame devait voir notre fille aînée en visite, et du coup, la veille, au soir, presque, au lieu de dire ça dans la journée, ils ont dit ça que dans la soirée, que Jeanne était malade, et que du coup la visite n'aurait pas lieu, et du coup on en a parlé à ma mère, et ma mère m'en a parlé, et du coup donc moi ça m'inquiète, quoi. Là j'ai eu des nouvelles, soi-disant ça va mieux, c'était soi-disant juste une grosse gastro et je sais plus quoi, mais...
D'accord, ils vous ont donné des nouvelles quand même.
Oui, voilà, c'est ça, mais ça m'a inquiété beaucoup, puisque je me dis parce que moi, je me dis, Jeanne, elle était pas mal comme ça, parce que c'est assez régulièrement qu'il y a des nouvelles assez négatives. À chaque fois, soi-disant, après chaque visite avec la maman, Jeanne, elle est agitée, elle fait des crises d'angoisse, par exemple, ou alors elle pleure.
Parlez bien dans votre téléphone, s'il vous plaît, parce que je vous entends. De loin là. Elle n'avait jamais de problème de santé, votre fille, avant ?
Non. Il y a eu une fois, elle a eu un peu de fièvre suite à un vaccin, et puis on l'avait emmenée aux urgences pour qu'elle soit auscultée, mais sinon à part ça, voilà. Et puis là, avec eux, depuis, à chaque fois, ça va jamais, et puis. Donc je me dis, ils disaient nous que ça allait pas, mais je me dis dans la famille d'acteurs, c'est pas mieux, quoi.
Et votre mère, en tant que grand-mère, en fait, elle a des droits, en fait, elle peut voir sa petite fille ?
Oui, elle pourrait, mais comme j'avais demandé il y a longtemps au service, elle doit faire un courrier au juge pour avoir des droits, mais. C'est vrai, c'est compliqué pour ma maman, parce que c'est vrai, elle est malade, elle est diabétique, elle est malvoyante, quoi, et tout ça. Et puis ça lui représente. Elle a pas forcément beaucoup de sous pour pouvoir aller là-bas, parce qu'elle serait obligée de prendre le covoiturage pour aller là-bas, aller-retour, et c'est assez compliqué, quoi. Comme elle me dit, je veux pas être la grand-mère d'une heure par mois, quoi.
Oui, mais bon, il y a pas le choix là, je pense. Hein. C'est parti pour un bon bout de temps, en fait, Alexis. Vous en avez conscience ?
Oui. Hein ? Oui. Comme je vous ai dit, moi, je me suis mis dans l'idée que ce sera jusqu'à la majorité, je pense. Hein, mais.
Oui, vous pensez que ça va être comme ça maintenant ?
Oui. C'est vrai que moi et madame, on a connu plein de gens qui ont eu cette situation-là, des enfants et tout ça, et puis ils racontaient que même des fois, quand ils demandaient à récupérer leurs enfants, des fois, ça faisait 4-5 ans que leurs enfants étaient placés, ils n'avaient toujours pas pu récupérer leurs enfants. Donc je me dis, ça va être très très long, quoi, au moins.
Ben, en fait, vous savez ce qu'il faut faire pour récupérer les enfants. Vous n'êtes plus avec la mère des petites, là.
Non.
Donc en plus, ça...
Oui, parce que je vous avais dit, c'était, vous savez, vous rappelez, c'était le CEDAS qui avait demandé à madame, qui avait dit, bon,
de se séparer de vous.
Oui, si elle ne séparait pas de moi, il plaçait la petite Rose, quoi, en gros. Et
elle s'est séparée de vous et ils l'ont placée quand même.
Oui, voilà.
Voilà, en gros. Alors que je me rappelle très bien de vous. Vous me disiez que ça allait plutôt bien avec votre femme, mais qu'au final. Voilà. Au final, l'ASE lui a demandé de se séparer de vous.
Oui, ben voilà. Parce qu'il y avait. Bon, après, il y avait des petites disputes avec madame, mais comme tous les couples, hein, après, voilà. Donc, mais sinon, ça allait bien, on s'entendait très bien. Voilà. Et voilà, madame, elle donne des nouvelles à ma. Vous voyez, elle est toujours en contact avec ma maman, tout ça, quoi.
Oui, donc il y a quand même de bons rapports entre vous et la mère des enfants, quand même, aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est ça.
Et qu'est-ce qu'elle veut, elle, la maman? Est-ce qu'elle veut récupérer ses filles ou elle est, comme vous, à se dire que c'est parti pour jusqu'à la majorité?
Parce que ça lui manque, ses filles, quand même. Et puis, bon, maintenant, elle est... je peux dire qu'elle est pratiquement déprimée. Souvent, elle dit, je me rappelle, souvent, elle me disait, là, c'est foutu, les petites, on les reverra plus, voilà, quoi.
Bon, écoutez, Alexis, je sais pas trop ce que je peux vous dire par rapport à la dernière fois, tout ça n'est pas bien engagé. Hein.
Non.
Il me semble que vous n'avez pas de travail en plus en ce moment, c'est compliqué.
Non. Là, j'ai entamé les démarches pour reprendre la conduite, pour pouvoir avoir le permis, pour faciliter la recherche d'emploi ensuite.
Ouais.
C'est vrai que c'est un frein aujourd'hui pour avoir un travail, hein, de permis.
Oui, il faut que vous ayez votre permis, c'est clair. Aujourd'hui, si on n'a pas le permis, ça limite vraiment beaucoup de... En tout cas, ça bouche l'horizon.
Vachement, parce que y a au pire, puisque même en intérim, c'est très, très, très dur de trouver une mission d'intérim sans permis. Quoi.
Ben oui, bien sûr. Vous voudriez faire quoi, en fait, Alexis?
Après, c'est vrai, je cherche un peu ce que je pourrais faire, mais je me dis, du moment que j'ai un travail et un salaire, voilà, quoi, ça me va très bien, quoi.
Vous avez fait quoi avant, en fait?
Comme je vous avais dit, j'avais travaillé en intérim dans le bâtiment, la logistique, j'avais travaillé à McDo, j'ai fait plein de travail, quoi.
Bon, écoutez... concentrez-vous sur le permis, hein, bien évidemment.
Oui.
Et puis après, une fois que le permis sera là, ça risque d'améliorer pas mal les choses. Vous savez, je vous l'ai dit, le retour des enfants, il dépend d'une stabilité retrouvée. Donc, quoi qu'il arrive, ça passera par le fait que vous ayez du travail, que vous ayez un appartement et que vous puissiez accueillir vos filles dans les conditions que requiert la vie d'enfant dans un appartement. C'est-à-dire que chacune des petites et sa chambre. Enfin, vous savez, hein, ils ont dû vous dire tout ça.
Oui. Parce qu'après, c'est sûr, comme quoi j'ai des bons rapports avec madame encore, parce que c'est vrai, on a tous les deux l'envie dans quelques années de se remettre ensemble et voilà, quoi.
Oui, vous voulez vous remettre ensemble quand même, vous vous aimez toujours?
Oui, il y a toujours des sentiments, parce que c'est vrai que, madame a été dire des choses qui ont fait que la justice ont décidé d'une mesure d'éloignement, mais...
Elle doit s'en mordre les doigts.
Elle s'en mordre les doigts. Elle l'a dit à ma mère, elle a dit, je regrette d'avoir été dire tout ça, quoi.
Oui, parce qu'elle a écouté tout le monde, là, visiblement, elle s'est fait monter... le bruit
de son. Parce que, comme je vous avais dit, elle est reconnue handicapée, donc elle est facilement manipulable, et voilà, quoi.
Oui, parce qu'on lui a fait même dire que vous étiez violent, je me souviens très bien.
De violence. Dire, elle a été jusqu'à même été dire que je la violais, quoi, en gros, quelque part.
Ah oui, d'accord. Bon, oui. Donc ça a été très très loin, cette histoire.
Oui, voilà. Bon, et... ça va, ça n'a pas été retenu, il n'y a que le reste qui a été retenu, comme vous dites, ça a été très très loin.
Ouais. Et puis vous avez eu de la chance de ne pas finir en prison sur cette histoire-là.
Bah oui, je m'estime vraiment chanceux. Quoi.
Bah ouais. Mmh. Bon, l'important, c'est que vous vous entendiez à nouveau bien, hein. Bien évidemment, oui. C'est toujours beaucoup mieux.
Oui,
ça pour l'intérêt voilà. Des enfants. Vous savez, hein, si vous avez le projet de vous remettre ensemble tous les deux, faut pas attendre des années, hein. Faut y aller maintenant, hein. Si vous voulez.
Oui. Non, mais ce que je veux dire, on va attendre minimum 2 ans parce que la mesure c'est 2 ans, quoi. On peut pas se parler ni rien pendant 2 ans. Quoi.
Ah bon, c'est pour ils ça... vous interdisent oui. De vous parler.
Oui. C'est une mesure d'éloignement carrément.
Ah oui, donc vous avez été condamné à rester éloigné de la maman des enfants.
Oui, c'est pour ça. Actuellement, je suis sur Orléans. Sinon, je serais toujours à Fougères. Mais, je pense qu'ils ont dû vouloir faire ça parce que bon, ils ont dû voir que juste un peu avant, je partais pas comme ça, parce que c'était pas facile pour moi non plus, parce que fallait me laisser du temps pour trouver quelqu'un pour m'héberger, tout ça. Je pouvais pas partir comme ça du jour au lendemain.
Oui, parce que vous étiez à la rue, vous, hein, avec tout ça.
Oui, voilà, oui. Du coup, au final, j'ai fini quand même à la rue à cause de tout ça, finalement.
Combien de temps vous êtes resté comme ça, sans rien, sans toi ?
Pas très longtemps, parce que j'ai contacté ma maman, tout ça, avec son ami. Puis oui. Du coup, son ami m'a dit rapidement, ma maman m'a dit, viens en Orléans, reste pas tout seul là-bas. Et...
On a Patricia qui nous appelle et qui veut réagir à votre témoignage, Alexis. Bonsoir, Patricia. Patricia, vous êtes là ? Je ne vous entends pas, Patricia, vous ne captez pas.
D'accord.
Mettez-vous dans un endroit qui capte.
Il y a une bonne réception.
Non, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. On va essayer de rétablir la connexion avec Patricia. Donc, du coup, vous êtes allé habiter chez votre mère quelques jours, en fait.
Chez l'ami de ma maman, quoi. D'accord. Qui m'a accueilli dans son logement. Et actuellement, j'y suis toujours pour l'instant.
D'accord. Bon, ça, c'est une chance, hein, Alexis, quand même.
Oui.
Parce que vous seriez vraiment mal, là, hein, dans cette histoire.
Oui, parce que je pense que j'aurais mal fini. Hein. Je pense que j'aurais pas supporté d'être à la rue. Et je pense que j'aurais fini... Malheureusement, décédé, mort, quoi. Je me serais peut-être jeté dans la Loire, ou je sais pas, mais.
Parce que ça allait mal. On a récupéré Patricia, Alexis. Vous êtes là, Patricia? Patricia? Vous êtes là? Allô? Patricia? Bon, on n'arrive pas. Patricia capte très mal. Bon, Alexis, en tout cas, courage à vous, hein. Il faut. Vraiment garder le cap, comme vous dites. Dans 2 ans, bon, ça vous laisse le temps de faire tout ce qui est nécessaire pour récupérer une stabilité, hein.
Oui, bien sûr.
Le permis, et puis après, step by step, comme on dit, hein.
Oui.
D'accord.
Voilà quoi.
Bon, courage à vous, Alexis.
Oui, merci beaucoup.
Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.
Sur Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Comment
bonsoir.
Allez-vous?
Bah ça va, je vous remercie. Enfin ça va, non pas trop, j'ai un peu mal au dos, mais bon.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous avez mal au dos?
Oui, j'ai mal au dos, oui, j'ai un petit souci dans le dos, mais enfin bon, quand on vieillit, on a souvent des petits problèmes.
Oui.
Voilà.
C'est pas le stress d'avoir déménagé dans le centre, tout ça?
Non, vous vous souvenez bien de moi, c'est bien.
Oui,
c'est peut-être dû à ça, oui, c'est bien possible, mais bon, c'est, je ne peux pas vous dire ça, c'est sûr, je ne sais pas du tout. Mais voilà.
Vous en avez parlé avec votre frère, alors, ou pas, un peu?
De quoi?
Du fait que vous ne vous plaisiez pas trop dans
le centre. Oui. Bah oui, mais lui, il adore cette région, le Berry, c'est sa région.
Il adore, bah oui.
Ah oui, il a vécu des années dans cette région, donc oui. Voilà.
Bon, donc il va falloir vous y habituer.
Puis on a, c'est ça exactement. En plus, c'est une très jolie maison. La région est belle, hein. C'est pas bon.
Ah le Berry, c'est magnifique, hein.
Ah oui, c'est une jolie région. Non, c'est vraiment très agréable. Mais bon, c'est vrai quand on n'a pas l'habitude d'être en province, c'est toujours un petit peu de déracinement, si on peut parler comme ça.
Oui. Alors, vous voulez me parler de cinéma, je crois.
Oui, justement. Oui. Alors, voilà, je voulais vous dire que, oui, j'adore, j'aime beaucoup le cinéma. Maintenant, comme j'ai un âge certain, je ne vais plus, puis surtout avec mon problème de dos, je ne vais plus trop au cinéma. Et pourtant, il est juste derrière la maison. Mais je pense que j'y retournerai dans quelques temps. Ce qui se passe, c'est que, oui, je disais que je pense que dans un film, il y a une chose qui est très importante, c'est la musique. Parce que je me souviens d'un film que j'avais vu, mais bon, je ne peux pas dire que j'ai adoré ce film-là.